destination Auvergne-Rhône-Alpes. Voyageons chez nous. Partons à la découverte de l'insolite en Auvergne-Rhône-Alpes. Destination Auvergne-Rhône-Alpes, la chronique estivale des radios de la Fédération Aura FM. Bonjour, Fréquence 7 vous invite en Sud-Ardèche. Avec Carlotta, nous irons aux confins de la vallée de la rivière Droby découvrir le Sentier des Lozes, un sentier artistique. Ensuite, je vous invite à Fabras, au Château du Pin, un lieu qui abrite des jardins et des œuvres artistiques. Première escale, le Sentier des Lozes. Nous partons à Saint-Mélanie dans les Cévennes d'Ardèche.
David Moinard, vous êtes le président de l'association du Sentier des Lozes, association qui s'occupe depuis plus de 20 ans d'animer cet ancien sentier paysan, aujourd'hui jalonné d'une bonne dizaine d'œuvres d'art, on va en parler. On a quitté le village de Saint-Mélanie, on a commencé à emprunter justement ce Sentier des Lozes, et puis là on n'est pas trop loin de la première œuvre et on se trouve sur une terrasse un peu plus large, une ancienne faïsse comme on dit ici, que vous aimeriez bien aménager, c'est ça ?
C'est ce qu'on appelle la terrasse des mûriers. Et c'est une terrasse qui est très large. Et c'est un endroit qu'on a beaucoup, beaucoup utilisé pour des conférences, des concerts, etc. Sur le Sentier des Lozes, c'est quand même vachement en pente. Donc les terrasses, généralement, sont très étroites. Il y a la vue qui est super belle. On voit vraiment les terrasses cultivées avec les vignes ici. Et puis le côté qui s'est ensauvagé, quoi, où la forêt a repris le dessus et tout ça. On est vraiment dans un paysage hyper typique de la Cévenne d'Ardèche. Et donc ce qu'on se dit, c'est qu'à cet endroit-là, on va faire vraiment un théâtre de verdure. Et on va faire un gradinage en pierre sèche. Tout ce qu'on voit autour de nous, en fait, tout est terrassé partout, ça paraît dingue. C'est un travail de fou quoi, qui a été fait pendant des décennies. Mais maintenant, c'est caché par la forêt, on ne voit plus les terrasses. Et évidemment, l'exploitation agricole, elle a beaucoup diminué par rapport au moment où ça a été construit, toutes ces terrasses. Et ce qu'on se dit, c'est que faire des terrasses en pierre sèche ici, mais dans l'optique d'un gradin, en fait, pour produire de la pensée, de l'art, de la création, de la musique et tout ça, eh ben, c'est une façon de réutiliser des terrasses qui avaient un usage purement agricole. Et donc, le point de vue du Sentier des Lozes, c'est de se dire, eh bien, invitons des artistes pour qu'ils posent leur regard là-dessus et qu'ils nous fassent voir ce paysage d'une nouvelle manière, quoi, d'une manière qui est toujours renouvelée. Et qui est offert du coup aux visiteurs, aux promeneurs, au public.
Combien d'œuvres d'art est-ce qu'on peut voir sur le sentier ?
Eh bien, cette année, on en a une nouvelle qui est créée sur la Sueille, qui est le seul endroit où on passe une rivière en fait, un passage à gué. Donc une œuvre de Jan Kopp, un artiste allemand, qui a fait une très belle proposition. Et ça va être la 10e œuvre du Sentier des Lozes.
Donc 10 œuvres d'art contemporain, donc des artistes qui sont bien vivants et qui sont venus ici pour réfléchir.
Moi, je parle plutôt de 10 œuvres d'art, en fait, parce que le terme d'art contemporain, ça fait peur à beaucoup de gens, parce qu'on a l'impression que c'est élitiste, qu'il faut être connaisseur, ou alors que c'est très chiant, tout simplement. Alors que nous, on défend le fait que les artistes qu'on invite, c'est en effet des artistes vivants, qui font de l'art d'aujourd'hui et un art très généreux. Il ne faut pas être connaisseur, en fait, pour venir ici. Il faut juste être sensible. Hein.
Puis là, c'est des œuvres qui s'imbriquent dans le paysage, qui s'en inspirent, qui lui font écho, qui sont parfois de matière organique ou minérale.
Oui, c'est toujours ça. C'est-à-dire, c'est pas des pièces rapportées, les œuvres. Quoi. C'est des artistes qui se sont imprégnés des paysages, de l'histoire, de tout ce qui fait ce contexte. Et c'est à partir de là qu'ils ont pensé à des œuvres. Donc, elles sont vraiment ancrées, les œuvres, ici.
On se rapproche de cette première œuvre du sentier.
Exactement.
Parole de Lozes, là on voit un petit panneau qui nous indique que c'est une œuvre de Domingo Cisneros. Et on voit plein de petits portraits en Lozes du coup.
C'est en Lozes, ouais. Même plus spécifiquement, c'est taillé dans ce qu'on appelle ici les parpaillons, qui sont les Lozes fêtières en fait, qui sont au croisement des deux pans des toits ici, pour s'emboîter les unes dans les autres. D'une, c'est très beau. C'est ce qu'on se dit souvent aussi ici, en fait. Dans l'architecture traditionnelle, paysanne, etc., clairement, très clairement, quand on sillonne ces vallées, quand on sillonne les hameaux, quand on voit les maisons, on se rend compte qu'il y avait une vraie recherche esthétique, quoi. Et c'est un peu, d'ailleurs, ce que cet artiste a vu. Donc, Domingo Cisneros, qui a été le premier artiste invité, un artiste mexicain, mais qui vit depuis des années au Québec, très en lien avec des Amérindiens. Et ça, c'est la petite histoire. Je me souviens, par exemple, d'une personne de l'association qui disait que quand les néo-ruraux sont arrivés ici, dans les années 70, quoi. Les gens du coin, les paysans, tout ça, les appelaient les Indiens. Et c'était une façon aussi, une sorte d'hommage un peu drôle, un petit clin d'œil, quoi, que d'inviter un artiste indien à venir ici, parce que l'objectif du Sentier des Loses à sa création, c'était aussi de faire se rencontrer les gens entre eux, quoi. C'est les gens qui sont ardéchois depuis 50 générations, les néo-ruraux qui sont arrivés dans les années 70 et leurs enfants, et notamment les gens d'Europe du Nord, les Belges, beaucoup, néerlandais, belges, flamands, pour se parler, tout simplement, quoi. Donc cet artiste, il a rebâti un petit muret de pierre sèche et il a planté ses loses à la verticale sur le muret de pierre sèche en une sorte de galerie de portraits.
C'est en général les œuvres qu'on peut voir ici, on pourrait dire des sculptures, des œuvres monumentales.
Non, c'est rarement des œuvres monumentales. C'est pas vraiment dans l'esprit en fait de l'association que d'aller dans le monumental, mais plutôt d'aller dans le dialogue subtil avec le paysage, etc. Il y a une dimension sculpturale dans celle-ci, Domingo Cisneros, et par exemple, évidemment, chez Christian Lapie, avec ses silhouettes qui sont des grandes sculptures de bois noir, qui sont comme des sortes de sentinelles comme ça dans le paysage, qu'on retrouve à des endroits ici et là le long du sentier et autour de la vallée. Mais il y a des œuvres d'un tout autre ordre en fait. Il y a par exemple une œuvre qui s'appelle Revolution is not a picnic.
La révolution n'est pas un pique-nique.
Qui est une armoire en fait. C'est des deux artistes d'origine italienne et belge, Ivo Provost et Simona De Nicolai, qui ont conçu une œuvre appropriable par tous, aussi bien les habitants que les gens de passage. Ils ont conçu donc une œuvre qui consiste en une armoire qui est fermée à clé. Et en fait, on est invité à venir acheter une clé au café de Saint-Mélanie pour 5 euros, hein, c'est pas ruineux. En achetant la clé, on devient copropriétaire de l'armoire. Et donc, on a le droit d'y aller, d'aller l'ouvrir et de voir ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, c'est ce que les autres copropriétaires ont laissé. Et donc, on peut laisser et prendre ce qu'on veut, en fait. C'est très ouvert.
Donc, une dizaine d'œuvres très différentes les unes des autres, mais toujours en résonance avec le paysage. C'est vraiment l'idée de ce sentier. On le parcourt en combien de temps ?
Le sentier des Loses, il faut prévoir la journée. 5-6 heures de marche, le pique-nique dans le sac, et puis de vraiment prendre le temps et de profiter de la rivière pour se baigner, etc. etc. C'est un ensemble, c'est pas seulement les œuvres, évidemment.
Et pour en savoir plus, direction le site internet sur lesentierdesloses.fr. En quittant Saint-Mélanie, nous pouvons vous conseiller la découverte du Vieux Joyeuse. L'été des artisans créateurs installés à l'année y propose les dimanches soirs un marché des créateurs. Attention à ne pas le confondre avec celui qui se déroule au même moment sur la place principale. Destination Fabras à présent. Le long de la Nationale 102 et de la rivière Ardèche, 10 km après Aubenas en direction du Puy-en-Velay, voici le Château du Pin, un écrin de verdure où nous attend Christian Bonzolakis, le maître des lieux, des et non pas du lieu, car ici, il y a plusieurs choses magiques à découvrir.
Alors c'est vrai que c'est un lieu qui est rempli de surprises et de mystères. C'est une maison forte du XVIe siècle, entourée de jardins qui sont labellisés, donc jardin remarquable en tant que jardin d'artiste, qui ont été créés par Martine Diercé. Et les jardins et la bâtisse sont emplis de meubles anciens, de tableaux, de sculptures. À l'extérieur, c'est la même chose. Les jardins accueillent toute une série de sculptures, soit de Martine Diercé, soit d'artistes invités, comme cette année de Jankel, des sculptures d'Adé Perrin et des photographies sur bâche de Stéphane Brochet, plus des artistes de Thiers-les-Offres qui sont restés de façon pérenne.
Puis de l'édition aussi, également. Ici, à côté de moi, sur la table, il y a des livres.
Alors, ici, c'est géré par une association, l'association de Colette Bonzo, et cette association est également éditrice. Donc, on a un certain nombre de livres qui paraissent depuis une vingtaine d'années maintenant, qui sont très souvent liés aux expositions qui sont programmées. Le principe étant que c'est un écrivain qui va parler d'un artiste, sauf si c'est l'artiste lui-même qui prend la plume, ce qui arrive aussi.
Alors on arrive au Château du Pin à pied, on se gare à l'extérieur et on commence par une petite balade qui petit à petit nous fait déjà découvrir des premières œuvres.
Oui, on commence par rentrer dans un sentier, enfin un chemin qui est bordé d'abord d'une très grande sculpture de Martine Diercé qui s'appelle L'amour en cage, qui est en voile de béton et en pâte de verre. puits d'un lavoir, d'un bassin à lavoir qui a été restauré et qui est également entouré de céramique. Donc on a cet aspect-là et puis après on progresse, on longe des faïences, des terrasses avec, en tout cas au mois de mai et au début juin, toute une collection de roses anciennes et botaniques qui sont une des spécialités, si vous voulez, du jardin. Il y a quantité d'autres fleurs. Alors ces jardins ne sont pas des jardins classiques, ni à la française, ni à l'anglaise, etc. C'est des jardins plutôt labyrinthes, où on se laisse, disons, surprendre au détour d'un bosquet, par des floraisons, par des arbres et par des sculptures. Il y a ce mélange, ce qui fait, je crois, la saveur de ce jardin.
On commence par où ? Plutôt le jardin, plutôt la maison forte ?
Je crois vraiment que c'est comme on veut. Quand il fait très chaud, on commence par la maison, où il fait très frais. Et ensuite, on peut aller se promener dans les jardins, soit à son gré, soit ça peut être guidé également. Voilà. Il y a du reste un petit plan des jardins aussi qui existe. En général, les visiteuses ou les visiteurs sont agréablement surpris du charme qui se dégage et de la bâtisse et des jardins. C'est un charme où il y a à la fois du rêve, de l'intimisme, du mystère. Parfois, c'est un peu conte de fées. Voilà, on peut peut-être dire ça. Il y a peut-être quelque chose du conte de fées, avec parfois quelque chose qui même est un peu faire un petit peu peur aussi, hein, comme dans les vrais contes de fées, quoi.
Et puis, c'est habité, hein. J'ai entendu beaucoup de chants d'oiseaux.
Alors, il y a beaucoup d'oiseaux ici, c'est vrai, énormément. On a cette chance-là d'avoir conservé beaucoup, beaucoup d'oiseaux, sauf les hirondelles. Et donc, on peut également entendre aussi, de temps en temps, le chevreuil ou le sanglier. Et puis, on a des oiseaux de nuit également qui sont présents aussi. Il y a beaucoup de piafs, beaucoup de piafs. Beaucoup de geais, beaucoup de mésanges, des rossignols. C'est vrai que c'est un endroit tout à fait bien aussi pour capter des sons.
Chaque été, le Château du Pin propose ses estivales, une programmation sur plusieurs mois qui nous invite à découvrir au-delà de la bâtisse et des jardins, des artistes invités. Christian Bonzolakis nous parle de ceci.
Vous avez des sculptures d'Anne Perrin regroupées sous le titre Fleurs de verre. Anne Perrin, c'est un sculpteur fantastique qui joue avec toutes les transparences possibles. Il sait capter, on va dire, l'arc-en-ciel à travers ses créations. Il va installer ses œuvres et elles resteront de façon pérenne. Donc c'est un très beau cadeau qu'il va nous faire.
De la photographie, j'ai eu.
Alors, nous avons des photographies, donc Alain Perrin, lui, vit en Ardèche. Hein. Stéphane Brochier, donc, qui est photographe, lui, vit à travaille à Paris. Et il était venu en Ardèche, ici, donc, au Château du Pin, et il avait photographié les jardins et l'intérieur du bâtiment. Et donc, ça donne une exposition qui s'appelle « Intérieur-extérieur », avec évidemment un petit jeu de mots, c'est-à-dire que les photographies de jardin sont présentées dans la maison et les photographies de la maison sont présentées dans les jardins. Ce sont des photographies très souvent en couleur, extrêmement fouillées, avec quelque chose de presque pictural dans leur approche. C'est très impressionnant, il y a des jeux de perspective, on pénètre là aussi dans un univers très mystérieux.
D'autres invités, alors bien sûr, il y a les œuvres de Martine Dircé, toujours présentes, et puis d'autres invités encore pour cet été ?
On va avoir, mais pas tout de suite, parce que ça a pris du retard avec les problèmes de Covid, une vidéo d'Héloïse Le Gallo, qui a travaillé ici sur les sources. Et donc, on va avoir cette vidéo, c'est un film d'artiste, accompagné également d'une sculpture. Et puis, on pourra voir aussi des peintures, ou revoir des peintures de Colette Bonzeau, hein, qui avait donc vécu dans cette maison dans les années 60-70.
Puis les œuvres de Jankel.
Jankel, c'était un personnage, puisqu'il vient de mourir. Hein, il est mort à la veille de ses 100 ans, au mois d'avril. Le département de l'Ardèche souhaitait rendre un hommage à cet homme pour son anniversaire de 100 ans. Mais les sculptures sont là, c'est un ensemble de 9 sculptures que Jankel appelait ses rouillures. Rouillures, parce que quand on les regarde comme ça, elles ont un aspect rouillé, effectivement, puisqu'elles sont faites essentiellement de matériaux de récupération, qui sont assemblés, qui sont soudés. Et il appelle cette série de 9 sculptures grotesques au jardin, grotesques au pluriel. Donc c'est un homme qui avait infiniment d'humour.
Donc on découvre 9 de ces rouillures dans les jardins du château.
Aussi, hein, voilà.
Conditions d'accès et horaires d'ouverture cet été uniquement sur rendez-vous à l'adresse château-du-pin.org. Une fois la visite du château du Pin à Fabras en Sud-Ardèche terminée, vous pouvez découvrir dans le secteur le château fort moyenâgeux de Ventadour, en réfection depuis plus de 50 ans, ou encore le château de Haut-Ségur. Ces deux édifices se situent sur la commune voisine de Meyras, commune qui abrite d'ailleurs en bord d'Ardèche les thermes de Nérac-les-Bains et son parc où il fait bon se promener. D'ailleurs, depuis ce parc, nous vous conseillons de prendre la route sinueuse qui mène à Jaujac village où vous trouverez au bord de la rivière Le Lignon, des orgues basaltiques et pas moins de 3 châteaux dans un village, dont un abrite la maison du parc naturel régional des Monts d'Ardèche et son exposition estivale sur les insectes pollinisateurs. C'était Destination Auvergne-Rhône-Alpes, la chronique estivale des radios de la Fédération Aura FM, Fédération des radios associatives non commerciales Auvergne-Rhône-Alpes. Retrouvez toutes les productions de cet été sur le site aurafm.org.